Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il s'est éteint hier à cause du Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing est mort. Président de la République entre 1974 et 81, président de grandes réformes sociétales comme la majorité à 18 ans. Retour dans ce journal sur sa vie politique et hommage à l'homme moderne qu'il était. À l'heure des grandes questions sur la vaccination contre le Covid-19, par ailleurs, vous entendrez dans cette édition comment des volontaires seront vaccinés en France ces prochaines semaines. Et puis la reprise du procès des attentats de janvier 2015, c'était hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Au revoir. Les photos de Valéry Giscard d'Estaing barrent ce matin les unes des journaux qui saluent le destin français et européen de l'ancien président. Et Valéry Giscard d'Estaing est décédé hier soir à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Et c'est la mort d'un géant de la politique française, Thomas Larabie.
Celui que l'on nommait souvent simplement par ses initiales, VGE, naît en Allemagne en 1926. Il débute sa carrière administrative et politique en tant qu'inspecteur des finances, puis député du Puy-de-Dôme à partir de 1956. Mais sa carrière prend réellement son envol lorsqu'il est nommé en 1959 secrétaire d'État, puis ministre des Finances sous la présidence du général de Gaulle, un poste qu'il continuera d'occuper sous celle de Georges Pompidou. Puis Valéry Giscard d'Estaing, qui souhaite faire de la France une société libérale avancée, ce sont ses mots, bat François Mitterrand dans la course à l'Élysée de 1974 avec un débat de l'entre-deux-tours qui reste dans les mémoires.
Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Valéry Giscard d'Estaing devient alors le plus jeune président du XXe siècle, et notamment voté sous sa présidence l'abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement, le divorce par consentement mutuel ou encore la fin de la tutelle de la télévision publique. En lice pour un deuxième mandat en 1981, il est cette fois battu par son meilleur ennemi, François Mitterrand. Il ne quittera jamais vraiment la politique et sera par la suite élu député européen, avant de siéger au Conseil constitutionnel. Une carrière politique qui cache également une carrière littéraire. Ses nombreux romans et essais lui vaudront d'entrer à l'Académie française en 2003. Une façon bien élégante, comme toujours, de dire
au revoir.
Dernière phrase solennelle de Valéry Giscard d'Estaing, presque pittoresque, mille fois caricaturée évidemment ces dernières années. Valéry Giscard d'Estaing, président le plus jeune, nous l'avons dit, en 1974, à l'âge de 48 ans, avant d'être dépassé il y a 3 ans par Emmanuel Macron. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, salue d'ailleurs ce matin le septennat de Giscard d'Estaing, qui transforma la France, un homme politique de progrès et de liberté. La modernité, c'est aussi ce que veut retenir Hervé Morin, ancien ministre de la Défense et président centriste de la région Normandie.
Ça peut paraître aujourd'hui anachronique en 2020, mais il exprimait une réelle modernité. Il avait compris qu'après mai 68, il fallait moderniser la société française, moderniser la démocratie française, probablement aussi changer toute une série de codes. Parce que c'était un libéral, parce que c'était un homme qui était un humaniste et qui notamment voulait dépoussiérer toute une série, ou tout du moins ôter toute une série de carcans qui existaient encore dans la législation française et empêchaient cette modernisation.
Nous reviendrons évidemment tout au long de la matinale sur France Culture, sur la vie de Valéry Giscard d'Estaing, ses réformes, ses défaites politiques aussi et sa vision de l'Europe. Lui qui rédigea en 2005 une constitution européenne finalement rejetée par référendum. Vous pouvez aussi retrouver la carrière politique de cet ancien président de la République en son et en image sur notre site en une ce matin sur franceculture.fr. Les premiers tests de vaccins contre le Covid-19 en France. Des volontaires français vont tester 3 projets de vaccins dans les prochaines semaines. Ils sont au total 41 000 à s'être inscrits auprès de l'INSERM et ils seront vaccinés au fur et à mesure, Solène Lehen.
D'ici une dizaine de jours, 1000 volontaires français commenceront à tester le projet de vaccin d'AstraZeneca, celui dont le laboratoire a déjà dévoilé ces dernières semaines de premiers résultats obtenus à l'étranger. Les patients recevront 2 doses, soit du projet de vaccin, soit du placebo. À partir de la mi-décembre également, la même opération sera menée pour 1000 autres volontaires français, avec cette fois le projet de vaccin de l'industriel Janssen, qui entre dans la dernière phase de test, la phase 3. Enfin, dernier essai sur le projet de vaccin de l'Amérique américain Moderna. Cet essai va se pencher sur un point en particulier, savoir si le produit est efficace chez les personnes âgées, dont on sait qu'habituellement elles répondent moins bien aux vaccins, comme celui de la grippe par exemple. Le professeur Odile Launay coordonne la plateforme vaccinale.
On va recruter environ 180 personnes, dont 120 qui seront des personnes âgées de 70 ans et plus. L'objectif étant de comparer la réponse immunitaire entre les plus âgés et les plus jeunes.
Cet essai devrait débuter d'ici la fin du mois ou au début du mois prochain. L'INSERM assure être en contact avec d'autres industriels et laboratoires qui souhaitent aussi tester par la suite leur futur vaccin.
Et sachez par ailleurs que le gouvernement français doit préciser aujourd'hui sa stratégie de vaccination pour les mois qui viennent. Jean Castex, le Premier ministre, prendra la parole en fin d'après-midi. Sans attendre la publication du compte-rendu final qui est prévu la semaine prochaine, les députés Les Républicains Éric Ciotti et Damien Abad ont présenté hier les grandes lignes de leur rapport de la commission d'enquête sur le Covid-19. Après 6 mois d'audition, les parlementaires soulignent dans ce rapport une série de dysfonctionnements sur les stocks stratégiques, la gestion des masques, la politique des tests et la situation dans les EHPAD notamment. L'Assemblée nationale où sera débattu aujourd'hui un texte mené par la droite, validé déjà par le Sénat. Il vise à garantir dans la Constitution la prééminence des lois de la République. La droite veut en fait inscrire dans le texte constitutionnel que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. À quelques jours de la présentation du projet de loi sur les séparatismes en Conseil des ministres, projet de loi soutenu par le gouvernement, la majorité se retrouve un peu au pied du mur, Rosalie Lafarge.
Ce texte, pour la majorité, c'est de l'opportunisme. C'est en résumé ce qu'ont dit les députés en commission, Bruno Ketel, chez les Marcheurs.
Le groupe La République En Marche ne votera pas cette proposition de loi constitutionnelle que, pour ma part, je qualifierais de cosmétique.
Inutile aussi pour Laurence Wisniewski au Modem.
Qu'est-ce que le séparatisme islamiste serait empêché de faire par ce texte qu'il a la liberté de faire aujourd'hui en l'état actuel de notre Constitution ? Rien, je crois.
La proposition n'a donc quasiment aucune chance d'être validée. À droite, on dénonce l'attitude politicienne de députés vexés de se faire griller la priorité à une semaine de la présentation du projet de loi séparatisme.
Il faudra qu'ils s'en expliquent le moment venu.
Annie Genevard, rapporteure de ce texte pour Les Républicains, appelle à la responsabilité.
On ne peut pas, au lendemain des attentats, la mort de Samuel Paty, l'attentat de Nice, qui s'ajoute à tous les autres, pleurer nos morts et déplorer les effets du fondamentalisme radical musulman, et en même temps s'opposer à une démarche qui vise puissamment à le combattre. Il y a un moment, il faut choisir le parti de la cohérence.
La majorité présidentielle est-elle vraiment prête à combattre l'islamisme en France ? C'est finalement à cette question, veut croire la droite, que les troupes macronistes s'apprêtent à répondre non tout à l'heure.
Rosalie Lafarge. Après un mois d'interruption, le procès des attentats de janvier 2015 a repris hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Une journée marquée par des incidents à répétition. Le principal accusé souffrant toujours de vomissements mais refusant de prendre son traitement et invectivant la cour à plusieurs reprises. Le président a fini par décider de son expulsion pour permettre aux avocats de continuer à plaider sans être interrompus. 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union en Israël a fait un premier pas hier vers sa chute. Les députés ont appelé par un vote préliminaire à la dissolution du Parlement et à la convocation de nouvelles élections en Israël. Cette nouvelle crise s'accompagne d'une guerre des mots entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Benny Gantz. Cela pourrait donner lieu à un 4e scrutin législatif en 2 ans dans le pays. Aux États-Unis, il avait affirmé la semaine dernière s'en remettre au collège électoral pour laisser sa place à la Maison-Blanche, mais cela ne veut pas dire qu'il accepte sa défaite. Donald Trump a mis en ligne hier soir une vidéo, 45 minutes de discours où il n'est question que de fraude, de scrutin volé et de recours en cours. Extrait.
This may be the most important speech I've ever made.
C'est peut-être le discours le plus important que j'ai jamais fait. Je veux faire le point sur nos efforts en cours pour mettre au jour les énormes fraudes et irrégularités lors des élections ridiculement longues du 3 novembre. Beaucoup de mauvaises choses se sont produites pendant cette période ridicule. En tant que président, je n'ai pas de plus grand devoir que de défendre les lois et la Constitution des États-Unis. C'est pourquoi je suis déterminé à protéger notre système électoral qui fait actuellement l'objet d'une attaque et d'un siège coordonné.
Which is now under coordinated assault and siege.
Donald Trump, traduit à New York par notre correspondant Sébastien Paour. Donald Trump qui évoque maintenant ouvertement la possibilité de se représenter en 2024. L'extrême sud de la France fait figure d'exception aujourd'hui avec un grand soleil. Ailleurs, les pluies vont arroser le pays. Ce matin, il fait 3 degrés à Strasbourg, 7 à Paris et 13 degrés à Perpignan. Il est 6h.